Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 19 mars, à quelques jours, quelques heures même du printemps, début du printemps. Selon le moment où vous nous écoutez, ça commence à sentir le printemps, mais ça commence à sentir d'autres choses à Montréal. Ça commence à sentir les séries éliminatoires. Avec la victoire des Canadiens hier contre les Sénateurs d'Ottawa, soudainement, on se réveille et les Canadiens sont en position pour être de la grande danse du printemps. Est-ce que ça va se maintenir d'ici à la fin de la saison? Ben, je vais en parler aujourd'hui avec mes deux coéquipiers, Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut JF.
Bon matin, messieurs.
Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur le balado. Donc oui, bien écoute, on va parler de tout ça. Hier, match important. C'est sûr que présentement, on dit c'est le match le plus important de la saison jusqu'au prochain. Hein, mais bon, c'est un peu ça pour les Canadiens. Mais contre les Sénateurs, c'était intéressant parce que les Sénateurs aussi étaient en feu. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission. On va parler de la course aux séries, bien évidemment. On va parler de Vincent Desharnais. Comment il vit ça là, depuis qu'il est à San Jose, son arrivée à San Jose après avoir été à nouveau échangé cette année. On va parler aussi de Jacob Petit. Bref, des Québécois qui ont été échangés à la date limite des transactions. Donc, on va parler de tout ça. Et on va parler aussi, on va discuter de la course aux différents trophées. Bon, qui sont nos favoris pour l'emporter? Alors qu'on a passé trois quarts de la saison, là, on approche lentement. On est dans le dernier droit, comme on dit. Avant de se lancer, ben, chers auditeurs, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de balado qui peuvent exister, particulièrement Apple, Spotify, YouTube Music aussi, on est là-dessus. Donc, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et abonnez-vous, suivez-vous nous pour être certain de ne jamais manquer le moindre balado. Messieurs, gros match hier pour les Canadiens, soyons francs, ça se dessinait pas nécessairement très bien à un certain moment de la rencontre parce qu'on peut pas dire que c'est le match le plus complet qu'on a joué du côté du tricolore, mais encore une fois, on a réussi à l'emporter. Marque de 6-3, victoire des Canadiens. Et contrairement au dernier match, là, ce qu'on vient de voir dans la récente séquence de succès des Canadiens, c'est pas le premier trio qui s'est signalé. C'est les joueurs de soutien. C'est les Josh Anderson, c'est Brendan Gallagher, entre autres, qui ont donné le ton. Et ça, c'est rassurant pour une équipe qui veut entrer. Non, je ne vais pas dire qu'il veut entrer pour les séries éliminatoires, parce que ça serait vraiment la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais qui veut terminer la saison en force puis justement participer aux séries.
Oui, absolument, c'est rassurant. Martin Saint-Louis le disait la semaine dernière, ça va prendre du bonus jusqu'à la fin de l'année. Par bonus, il faisait un clin d'œil à une production offensive à l'extérieur du premier trio. Contre les Sénateurs, bien c'est 5 buts en troisième période, 2 dans des filets déserts, mais quand même, le CH a réussi à revenir. Perdait 2-1 après 40 minutes, perdait 3-2 après quoi, Guillaume? 46 minutes environ, là, début de la troisième période.
Oui, j'ai lu 46, j'ai lu vos textes ce matin le site.
Lane Hutson qui réveille un peu tout le monde avec la magie de Lane Hutson, un jeu qui semblait...
Il avait l'air de Cale Makar, de la façon qu'il est rentré au cercle et qu'il a décoché son tir. On le sait, l'Innocent n'aura jamais une bine incroyable, mais c'est cette façon-là qui peut marquer des buts, un peu comme le fait Makar.
Oui, mais c'est un tir précis des poignets. On va en parler probablement en fin d'émission quand sera le temps de parler de la course au trophée. Mais Hutson est un joueur unique qui a ce talent-là pour changer le cours d'un match. Mais Nick, tu parlais d'entrée de jeu, le travail des gars du troisième trio. Christian Dvorak, sommet personnel avec 4 points. Brendan Gallagher, 1 but, 2 passes. Mais surtout, Josh Anderson, 2 buts. Belle histoire d'amour aussi entre Josh Anderson, le public montréalais. Hier, Anderson, dans son entrevue avec Marc Denis, était visiblement touché de la réaction de la foule qui applaudissait, criait des « olé, olé, olé ». Anderson, c'est le travaillant, c'est celui qui continue, même s'il y a des bobos un peu partout. Encore en troisième période ou en deuxième. En troisième période, on l'a vu chuter derrière le filet de Linus Ulmark. On se demandait si c'est encore fait mal. Non, Anderson revient.
Ça, c'était le patin de Shane Pinto, honnêtement, qui était d'ailleurs,
il a dit après le match qu'il portait de nouveaux bas protecteurs et merci aux bas qui l'ont probablement sauvé d'une blessure.
Est-ce que ce sont les bas de Steve Bradshaw dans l'ancien compte?
J'ai pas posé.
Là je suis sérieux. L'acteur. Question. Non, mais je suis sérieux. L'acteur qui faisait Steve Bradshaw dans l'ancien compte s'est lancé dans la fabrication de bas, en Kevlar, là, ou je sais pas c'est quoi le matériel. Okay. Par la
ben,
suite.
On parle de bas de protection.
De bas de
en
protection.
Kevlar,
là, donc, je sais pas si c'est ça. Je vais regarder.
C'était pas des bas blancs comme des ados là, qui portent beaucoup trop haut. C'était vraiment des bas utiles pour jouer au hockey. Mais bon, Anderson, honnêtement, c'est une belle histoire cette année. On en a parlé souvent, puis j'aime l'expression de Martin Saint-Louis. Martin, en anglais, dit « c'est un joueur qui drive la culture ». En français, grâce au pianiste et intelligent Alexandre Gascon, on a trouvé « vecteur de culture ».
Le pianiste.
Donc, c'est quelqu'un qui inspire.
Il a quand même gagné un prix pour la qualité de sa langue française. Là. Donc, ouais. C'est quand même pas rien. Ouais. J'aurais pas pensé
il
à
pas
ça.
Juste de beaux souliers.
J'aurais pas pensé à ça, vecteur.
Alexandre McSween de son deuxième nom aussi. Là,
exact. Alain Lefebvre comme troisième nom. Ça. Si vous voulez faire un Google, Alexandre Gascon et Alain Lefebvre ou M. McSween. Mais pour revenir à Josh Anderson, c'est vrai que c'en est un qui inspire les coéquipiers. T'sais, s'il marque pas, bien, il va frapper l'échec avant. C'est un jeu qui est très simple pour lui avec Dvorak. Et avec Gallagher, puis surtout cette année, je pense qu'il s'est retiré la pression d'être un joueur offensif. En début d'année, Martin Saint-Louis s'est assis avec lui pour lui confier des missions plus défensives, du temps de jeu en infériorité numérique. Puis c'est un joueur qui a immédiatement dit oui à ce nouveau rôle-là, jamais s'est plaint de ne plus obtenir de présence en supériorité numérique. Puis Anderson, cette année, c'est quoi? C'est 12 buts, c'est 22 points. On ne parle pas d'une saison extraordinaire en termes de chiffres. Mais ce qu'il a donné aux Canadiens du début à l'année en intensité, en mise en échec avant. Anderson, Gallagher, vraiment deux alliés typiques d'un troisième trio. Mais c'est drôle, cette année, personne ne parle des contrats d'Anderson et de Gallagher parce que justement, ils font le travail. Guillaume a son grand doigt de 8 pieds 2 qui vient de se lever.
Tu n'étais pas obligé de le dire. C'est ça la magie de l'audio.
Il faut faire rire aussi.
C'est épouvantable.
Non, c'est que t'es tout seul, à rire dans ta tête parce que t'es tout seul à voir ce qui se passe dans notre conversation. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe quand tu...
Mais on peut imaginer un grand doigt mince un peu à la E.T. Là.
Tout
E.T. moustachu, c'est ça la différence.
Exact.
Tout ça parce que je voulais rajouter le fait que hier, pendant le scrum de Josh Anderson, j'étais un peu en retrait parce que Jeff était à côté et c'était son sujet. Moi, je faisais juste regarder et écouter ce qu'il disait. Puis j'ai eu un flash de l'an dernier, à peu près à la même période, où Josh Anderson était sur une séquence de je sais pas combien de matchs sans avoir marqué.
Une autre séquence.
Ouais.
Ça y avait pris 30 matchs en début d'année.
Ouais, puis je me souviens qu'une fois, il était dans le vestiaire, puis il était très, très émotif. Là, je pense que c'est peut-être le match où il a finalement mis fin à cette disette-là, puis il y avait eu une belle ovation de la foule aussi. T'sais, le contraste entre ça et hier, où il était comme la vedette de ce match-là, un 18 mars, le Canadien avait sa place dans les séries. Je veux dire, en l'espace d'un an, c'est quand même remarquable le changement qu'il y a eu autour de Josh Anderson. Puis comme tu disais, Jeff, c'est vraiment à cause du fait qu'il a accepté son rôle défensif. T'sais, parce que si Josh Anderson est encore dans une chaise offensive, puis que les statistiques qu'il affiche en ce moment, ben probablement qu'on n'a pas le même discours à son sujet, puis qu'on le critique beaucoup plus qu'on l'encense ce matin.
Puis tu regardes un Christian Dvorak aussi, qui n'a pas traversé des léthargies un peu comme Anderson l'a fait, mais qui, depuis son arrivée à Montréal, n'est jamais devenu ce qu'on espérait, c'est-à-dire un deuxième centre. Mais là, présentement, dans cette chaise-là, troisième centre, ce trio-là, est un des... Justement, c'est trois gars qui ont des choses à prouver en quelque sorte. Parce que Gallagher, souvenez-vous, sa saison ces deux dernières saisons, ça a été difficile. Souvenez-vous, là, je pense le point plus creux, j'ai goût de dire, de la carrière de Gallagher, c'est la suspension de 5 matchs l'année dernière, en plein milieu de la saison. C'était juste avant le match des Étoiles, quelque chose comme ça dans ce coin-là. Et depuis ce temps-là, puis particulièrement cette année, Gallagher, il est revenu en force. Je ne sais pas si ça a été un peu un réveil qui s'est fait, cette suspension-là ou tout ça, mais les trois joueurs avaient des choses à prouver avant la saison. Puis justement, dans leur jeu, dans leur identité, puis je me demande aussi si les Canadiens ne sont pas en train de développer leur identité à travers tu as trois jeunes en haut, tu as Suzuki, Caulfield et Slavkovski qui, eux, développent leur identité offensive, mais l'identité de caractère passe par ce troisième trio-là.
Oui, je suis d'accord, mais quand une équipe gagne, un peu tout le monde paraît bien. Le CH se retrouve dans une belle période en ce moment. Dvorak, c'est un joueur qui donne un précieux coup de main à cette équipe-là cette année. Puis il passe un peu toujours dans l'ombre. Mm-hmm. Même à la date limite des transactions, on parlait des joueurs autonomes qui pouvaient partir de Montréal. Puis on entendait plus les noms de Yoel Armia, de David Savard. Dvorak venait peut-être en dernier en raison de son contrat, 4,45 millions par année. C'est un contrat qui va s'effacer à la fin de la saison. C'est pas impossible aussi que Kent Hughes décide de s'asseoir avec Christian Dvorak, parler d'une prolongation un peu à la Jake Evans. Dvorak ne reviendra pas en haut de 4 millions. Ça, s'il veut revenir en haut de 4 millions, on va fermer des livres assez rapidement. Mais c'est une production décente pour un joueur de troisième trio qui apporte d'autres choses que de l'offensive. C'est un gars qui gagne des mises en jeu, qui joue en désavantage numérique, puis aussi une qualité intangible, semble vraiment aimé dans cette équipe-là. Il est proche de Cole Caulfield. On le voit souvent à la fin des matchs. Là, il y a 3-4 joueurs qui restent pour faire un petit câlin de groupe. Il est avec Caulfield, il est avec Slavkovski, Suzuki. Donc, joue un rôle de meneur silencieux au sein de cette équipe-là. Ça va bien pour Dvorak. Puis à la position de centre, oui, il y a Owen Beck qui s'en vient, mais il n'y a pas non plus des espoirs à l'infini chez le CH. Donc, il faut faire attention avec le dossier Christian Dvorak à la fin de la saison.
Samuel Montembois, peut-être pas. Comment qualifier le mot qu'il a utilisé pour qualifier le but qu'il a laissé à Travis Amonic en plus. Soyons francs, Travis Amonic, c'était son premier de la saison. C'est un but qu'il a laissé entrer, qui aurait pu casser les reins du tricolore. On reviendra là, parce qu'encore une fois, c'est une preuve de caractère. Mais Montembois, qui venait de signer toute une victoire contre les Panthers, donne ce creton-là, un mauvais but. Il sentait mal, mais ça en dit long de la manière qu'il était accueilli au banc lors du temps d'arrêt qui a suivi.
Ben oui, c'est ça. Sam disait après le match, il dit en anglais, j'ai shit the bed. Je sais pas si c'est poli de dire ça, mais bon, en français, c'est comme on dirait, ça a plus ou moins d'impact. Là, mais la traduction en français, c'est j'ai foiré sur ce jeu-là.
Ouais, c'est ça.
Puis il dit, c'est un des pires buts que j'ai accordé de ma vie. Fait que. Tu sais, je pense qu'il en mettait un peu, là. C'est pas désastreux.
Je pensais que ça avait dévié sur New Hook, honnêtement, là, mais il a l'air à dire que non, là.
Peut-être dès le départ, là, dès que le tir a été décoché, peut-être ça a changé de trajectoire, mais si Montembeau est un peu plus sorti de son filet, peu importe la déviation, il stoppe ça assez facilement. Donc, il s'en voulait, surtout à un moment, tu sais, on le disait, Lane Hutson a réveillé un peu le Canadien, réveillé la foule parce qu'il ne générait pas grand-chose en territoire des Sénateurs à ce moment-là. On revient à 2-2. Là, on sentait que le Centre Bell revenait un peu comme il était samedi. Là, tu sais, la foule embarquait, puis on sentait de l'excitation, puis peut-être le troisième but venir. Puis finalement, les Sens sur une séquence vraiment anodine, le tir d'Amonic, ça fait 3-2, ça aurait vraiment pu casser couper les jambes des Canadiens. Puis Montembeau, c'est Nick Suzuki qui m'a dit ça après le match. Après, à la pause publicitaire suivante, est allé vers le banc, puis il a dit « Désolé les gars, c'est de ma faute et tout ça. » Puis Suzuki, il dit « On l'a tout regardé, puis on a dit là, de quoi tu parles? Là, tu nous as sauvés toute la saison. » Pas plus tard que le match de samedi contre les Panthers, je pense qu'il y a eu, je sais pas c'est combien de tirs dans les 6 dernières minutes, 8 tirs en 6 minutes, je pense, puis des tirs de qualité, puis il avait fermé la porte à ce moment-là. En début de match contre les Sens, il a fait un arrêt spectaculaire, la foule s'est levée, on a crié « Monty, Monty ». Donc Suzuki, il dit, tu sais, il nous a sauvés toute la saison, c'était à nous d'aller chercher ce but-là, puis Josh Anderson l'a fait pour créer l'égalité, puis après ça, ben, ça a été l'avalanche de buts pour terminer le match. Donc, tu sais, Montembeau est honnête, je pense que ça démontre à quel point il est humble, il s'en fout pas la tête avec ses récents succès. Puis d'un autre côté, ben là, il dit « je leur en dois une », puis quand tu fais le compte de toute la saison, je pense que ses coéquipiers sont encore en déficit de lui en devoir. Donc, c'est intéressant de voir cette dynamique-là. Tu sais, les joueurs veulent racheter les erreurs du gardien. Les gardiens veulent racheter les erreurs des joueurs. Donc, je pense que dans une équipe qui veut se frayer un chemin en série, ben c'est très bien de voir ça.
Je regardais... Bon, on va voir tantôt, on va discuter de la course au trophée. Trophée Vézina. Je lance... Vous avez probablement pas Montembeau dans votre top 3. Top 5, même.
Non.
Non?
Non, mais dans les buts sauvés...
Ben, c'est là que je m'en vais.
Montembeau fait partie de l'élite.
Ben, c'est ça qui est intéressant. Je regarde un peu... Bon, on regarde les statistiques. 25 victoires cette année... Montembeau, ce matin, il est 9e dans la Ligue ou 8e à égalité. Pourcentage d'arrêt, 901. Écoutez, dans les gardiens, selon Victoire, là, il est dans les pires à 901 au niveau du pourcentage d'arrêt. Dans les meilleurs gardiens, dans le top 15, mettons, là, pour les Victoires, là, à peu près. Là. Mais si on va voir, et là, vous n'êtes peut-être pas des amants de ça, les statistiques avancées, mais au niveau des statistiques avancées, si on regarde depuis le début de la saison, pas seulement là, dans la récente séquence de succès des Canadiens, depuis le début de la saison, Montembeau est 4e dans la Ligue pour les buts sauvés. Montembeau, au niveau du pourcentage d'arrêt attendu par rapport, ou plutôt supérieur à ce qui est attendu, Montembeau est 6e dans la Ligue. Puis avant le match d'hier, il était encore plus haut, là, mais hier, disons que la performance a un petit peu plombé, là, fait descendre. Au niveau des, ce qu'on appelle le WAR, les Wins Above Replacement. Donc, combien de victoires tu as été cherché par toi-même par rapport au gardien moyen dans la Ligue? Montembeau, il est 4e devant des gars comme Andrei Vasilevskiy, Ilya Sorokin, Philippe Gustafsson, Adam Hill, Jordan Binnington. Oui, je viens de nommer ces deux coéquipiers avec l'équipe Canada. Devant Sergei Bobrovsky, devant Jake Oettinger. Les statistiques avancées, ça vaut ce que ça vaut, mais ça dit aussi certaines choses. Je pense que ce que ça dit, c'est surtout les performances des Canadiens devant lui font que ça plombe les statistiques normales de Montembeau. Puis peut-être qu'on ne mesure pas assez bien à quel point Montembeau a été important cette année pour le tricolore.
Mais Nick, tu parles des statistiques normales. Depuis le retour de la pause des Quatre Nations, Samuel Montembeau, taux d'efficacité de 922. Il y en a un seul devant lui, Andrei Vasilevskiy, à 927. Fait que, tu sais, les statistiques normales, c'est l'illustration de la qualité du jeu devant lui. Autant ça a plombé par moment dans cette saison-là, autant là, tu vois que l'équipe a repris son aplomb. Puis Montembeau en profite. Puis Montembeau en profite et est un peu l'auteur de ses propres succès, j'ai l'impression. Là. Mais... C'est quand même, faut quand même souligner là, le fait qu'il y a seulement Andrei Vasilevskiy depuis le retour de cette pause-là qui est supérieur à Montembeau en termes de taux d'efficacité. C'est quand même impressionnant.
Puis j'ajouterais à ça, il ne faut pas oublier aussi que Montembeau, quand le Canadien a de la difficulté, là, il était tout seul parce que Primo était même plus utilisé. T'sais, il en a joué des matchs, là, deux matchs en deux soirs. Non. Des
il y a eu un moment où le citron a été pressé.
C'est ça, exactement. Donc, veux pas, ça a diminué un peu. Bon, avec la victoire d'hier, très importante pour les Canadiens parce qu'elle ramène un peu les Sénateurs dans le portrait. Là, ce matin, on se réveille, les Canadiens sont en séries éliminatoires, 2e place de 4e mars, on est à 4 points des Sénateurs. Avec une défaite, ben là, on se serait plutôt retrouvé avec, ben, premièrement, hors des séries éliminatoires derrière les Rangers de New York. Surtout, les Sénateurs auraient 79 points. Je pense qu'à ce moment-là, on regarderait plus vers le sommet. On serait à 4 points des Maple Leafs de Toronto. Donc, on est davantage dans la course, dans l'accession atlantique. Tandis que là, bon, les Canadiens sont en bonne position. Les Sénateurs, par contre, comme je disais, les gars, vous avez parlé. C'est toi, JF, tu as parlé avec. Avant le match, tu as parlé avec Dylan Cousin. Tu as parlé de Dylan Cousin.
J'espérais parler avec Dylan Cousin. J'ai parlé à plusieurs joueurs du quatrième trio.
Mais comment ça se passe, l'intégration de Cousins avec sa nouvelle équipe, qui est une équipe justement là, qui arrive dans un train qui est en mouvement assez rapide, merci.
Mais ça se passe très bien. Dylan Cousins, c'est pratiquement un point par match depuis son acquisition des Sabres de Buffalo. Les Sens, avant cette défaite à Montréal de 6-3, avaient gagné 7 matchs d'affilée. Cousins, lui, en uniforme, était 5-5 avant la visite à Montréal. Donc maintenant, 5 victoires et une défaite depuis qu'il joue pour les Sénateurs. On dirait qu'il y a une sorte de potion magique qui vient avec une transaction quand tu pars de Buffalo. Là, tu finis par redevenir un joueur dominant la journée que tu sors du vestiaire des Sabres de Buffalo. Puis Cousins, mais c'est du jeu assez simple au centre du deuxième trio, mais c'est beaucoup d'intensité, des mises en échec aussi. C'est lui qui mène les Sénateurs pour les mises en échec là, lors des 6 derniers matchs. Donc, c'est un gars qui a rapidement trouvé son rôle, trouvé son identité au sein des Sénateurs.
Et qui a été revigoré par la transaction, j'ai l'impression.
Oui, oui, ben absolument. Là, je pense que n'importe qui part d'une situation où c'est assez moribond, puis tu vois pas non plus à quoi peut ressembler le futur du côté de Buffalo. Donc, je pense que de se retrouver dans une course aux séries, pour lui, c'est, ça l'allure.
Souvenez-vous de l'acquisition de Chad Kelger du côté des Canadiens dans le temps. Moi, ça avait été le même type d'effet. Finalement, ça s'était
surmonte loin. Un grand gaucher, Chad Kelger. Ouais. Quatrième choix au total, je pense, un repêchage.
Oui, exactement.
Si
échangé contre...
Parlait bien français aussi.
Si je ne me trompe pas, avait été échangé contre le regretté Sergei Zadok. Je pense que c'était le Wild du Minnesota. Mais excusez, mais c'est la bulle qui m'a passé en tête là, quand tu m'as parlé de...
Tu parlais dans ton petit intro là, de course aux séries, d'introduction. Guillaume, on est assis ensemble sur la passerelle de presse. Là. Ça fait vraiment deux matchs au Centre Bell qu'on a le sentiment de vivre pratiquement une rencontre des séries.
Te rappelles-tu 2021 un peu? Ben non, parce qu'il y a du monde dans les
estrades. Non, parce qu'il y avait personne. Le match contre les Panthers, la vague de 6 minutes, ça a fait jaser par les joueurs du Canadien. Jaden Struble disait que ça ressemblait, Alexandre Carrier, même chose, ça ressemblait à l'ambiance là, de football européen, de soccer européen. Donc, c'est pas une question, je veux pas être chauvin ou quoi que ce soit, mais autant cette foule-là du Centre Bell peut parfois avoir la réputation d'être difficile, d'être sévère. Les partisans à Montréal ont acheté le concept d'une reconstruction. Ils ont été beaucoup plus patients qu'on l'aurait cru. Et maintenant, on dirait qu'ils montrent encore plus leur appétit pour une participation en série. Puis c'est le fun de voir la réaction du public. Le Centre Bell, il est bruyant. Il n'y a pas juste du bruit en cacane. On parle de véritable bruit. Les olé-olé, les chants. Puis on dirait que c'est unique de Montréal. Hier, Guillaume, t'écoutais Josh Anderson, mais quand il parlait de la foule montréalaise, il avait les yeux grands. Il a hâte de voir le Centre Bell rempli pour un match des séries. Puis sans rien enlever à d'autres villes, on en parle des fois dans le podcast avec un petit sourire, là, mais Montréal versus Toronto, t'as beau dire que Toronto est peut-être la mecque du hockey au Canada, en termes d'ambiance, c'est un gros nom. Puis même pour la confrontation des quatre nations, il y a un joueur qui me disait, sous le couvert de l'anonymat, on aurait dû commencer le tournoi à Boston et le finir à Montréal pour voir encore plus d'ambiance pour les matchs d'importance au Centre Bell. Donc, c'est un beau témoignage aussi de cette intensité du public montréalais.
Oui, parce qu'on a vu, on en voit en série, on voit plusieurs arénas dans cette ligue-là. On a couvert des finales de la Coupe Stanley, puis honnêtement, il y a des endroits où même en finale de la Coupe Stanley, c'était pas aussi bruyant, puis c'est peut-être surprenant, mais Boston est un de ces endroits-là où, dans un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, c'était moins bruyant qu'un samedi de basse contre les Panthers de la Floride dans une course aux séries au Centre Bell. Là, c'est vraiment, vraiment spécial d'entendre ça. Puis je sais pas si... T'sais, j'ai l'impression que tu parles de les partisans ont acheté le concept de reconstruction, mais je sais pas si on a l'impression du côté des partisans de faire partie de ce projet-là depuis le début. T'sais, on a suivi les moments difficiles et tout ça, que là, ça fait en sorte qu'on a du succès, on peut accéder aux séries. Tout le monde a l'impression de faire partie de ce projet-là, peut-être comparativement aux années précédentes où, t'sais, je me souviens dans des années 2010, 12, 13, 14, c'était... Tu savais pas trop, tu savais que le Canadien avait une chance de participer aux séries, mais t'sais, on dirait que c'était pas... Il n'y avait pas un travail de longue haleine qui avait été effectué pour ça. C'était des joueurs qui étaient acquis à la date limite des transactions pour essayer de patcher les trous. Puis là, on se rendait en série. Là, on a l'impression que bon, les gens sont attachés à ce noyau-là. On grandit un peu avec les jeunes. Puis là, ils profitent des succès qu'ils voient sur la glace. Fait qu'on dirait que ça ajoute peut-être une couche de plus à tout cet enthousiasme-là qu'il y a autour de l'équipe.
Mais c'est aussi la vraie première reconstruction de cette équipe-là depuis toujours. Tu parlais du début des années 2010, les printemps à Lac, puis tout ça. Puis c'était pas des équipes reconstruites. C'était on patchait de là, on allait là, on avait un peu de chance avec des choix de repêchage. Les succès après ça avec les années Subban, Pacioretty, c'était des bons choix de repêchage qu'on avait fait. Mais il n'y a jamais eu. On n'a jamais passé par le creux de vague d'une reconstruction. Et en même temps, somme toute, si le Canadien est en série cette année, cette reconstruction-là va avoir été extrêmement courte.
Quand on compare, je pense pas qu'il faut croire que c'est nécessairement fini, terminé.
Oui, c'est ça. C'est pas ça que je t'aurais dit.
Une reconstruction, c'est difficile à prédire aussi.
Mais quand tu compares avec les Sabres de Buffalo, quand tu compares avec la majorité des équipes, quand tu compares avec les Sénateurs qui, eux aussi, visent la même chose, mais ils ont commencé à reconstruire en 2017-18, environ après leur passage, ils avaient atteint la finale d'Association de l'Ouest. Je veux dire, la traversée du désert, tu as un tout petit désert là, au Canada, pour les Canadiens, somme toute.
Oui, mais il faut peut-être aussi donner un coup de chapeau à Kent Hughes, à Jeff Gorton, qui ont gardé la même vision, gardé le plan. Ils ont essuyé des critiques aussi à date limite des transactions pour ne pas avoir tenté d'obtenir du renfort. Autant en position de centre que peut-être un défenseur pour remplacer un Caden Goulet. Ils ont choisi de garder l'énorme banque de choix pour probablement danser là, cet été ou plus tard dans la saison.
Kent Hughes en a glissé un mot d'ailleurs là, cette semaine.
Oui, Kent Hughes en a glissé un mot avec le collègue là, Eric Angels du côté de la Floride. Mais si tu regardes aussi, on parle de reconstruction, mais Martin Saint-Louis a fait un travail quand même immense dans les dernières années, autant avec les jeunes que des vieux. Là. Brendan Gallagher, il y a eu de la reconstruction avec Brendan Gallagher. Josh Anderson, on en a parlé. Christian Dvorak le donne du bon hockey. À ligne bleue, il passe un petit peu dans l'ombre depuis. Yoel Armia, absolument, qui a fait un détour du côté de Laval. Donc, c'est pas juste les jeunes qui ont grandi avec l'air Saint-Louis, Hughes, Gorton. Puis depuis la blessure à Caden Goulet, la décision facile, ça aurait peut-être été de dire, ben regarde, on va sacrifier un choix de premier tour, on va aller chercher un défenseur d'expérience pour nous donner encore plus de chances d'y participer aux séries. Mais Jaden Struble passe un petit peu sous le radar. Mais Struble joue présentement un top 4 en compagnie de Lane Hudson. Puis il fait son petit boulot tranquille. Là. Pas trop d'erreurs. Joue ses bonnes minutes. Donne du bon hockey. Puis ça permet aux Canadiens d'avoir... Tu sais, ils ont gardé tous leurs actifs. Ils n'ont pas triché dans leur plan de reconstruction. Ils n'ont pas voulu sauter d'étape.
J'ai regardé un peu, on parlait de reconstruction. Je parlais des Sénateurs. Quand on regarde l'arc de croissance de ces deux équipes-là, on devrait suivre pour les 10 prochaines années, les Canadiens et les Sénateurs. Mm-hmm. Est-ce qu'enfin, on se dirige, enfin, vers une rivalité entre Montréal et Ottawa? Ce qu'on n'a jamais réussi à mettre en place depuis que les Sénateurs sont arrivés au vieux Civic Center, au centre civique d'Ottawa à l'époque, là, quand on a commencé. Jamais, peu importe ce qui s'est passé, il y a eu quoi, deux affrontements en séries éliminatoires, je crois, en 2011.
Ça avait brassé, là, c'était la série du morse aux yeux globuleux et compagnie. Là.
Ouais,
et
c'est
numéro, ça. Numéro 61, numéro c'est Paul McLean qui avait mis le feu aux poudres à l'époque.
Oui, ouais, effectivement.
Ouais, une mise en échec contre Lars Eller.
C'était Eller? Ouais.
C'est Eller qui s'était fait ramasser par Eric Greiba.
Du Ottawa Sun, c'était « Sens draw first blood ». Puis t'avais Eller qui était dans une mare de sang étendue sur la patinoire, je me souviens. C'était le premier match de la série, donc ça avait donné le ton un peu à ce qui s'est passé par la suite. Mais Nick, tu parles de rivalité qui n'a jamais été là. On dirait que, tu sais, là, cet audit-là, je pense pas que sa cote de popularité à Montréal est très élevée.
Non, c'est ça.
On le surnomme le plongeur allemand. Brady Tkachuk, je pense que sa cote de popularité n'était pas déjà pas très haute parce que les gens auraient aimé l'avoir parce qu'on se souvient qu'il était disponible au rang du Canadien au repêchage de 2018. Là, la confrontation des quatre nations, Tkachuk au Canada à part à Ottawa, je pense que ça, c'est terminé. On l'a hué hier chaque fois qu'il touchait à la rondelle. Ridley Gregg, c'est une petite peste. Je pense que c'est le joueur le plus haï dans le vestiaire des Canadiens.
Lui, il va pimenter cette rivalité-là pour lui.
Oui, il y en a d'ailleurs.
Ça se bâtit tranquillement. Puis, tu sais, le petit tour que j'ai été faire à Ottawa, les textes que j'ai écrits sur nos réseaux sociaux, tu lisais les commentaires, puis c'est de l'engagement haineux de la part des lecteurs francophones, des lecteurs de Montréal. Tu sais, on sent qu'il y a, je sais pas, une rivalité parce que, tu sais, justement,
ouais, c'est ça.
Justement, on est un peu dans le même processus, puis là, c'est ah, nos espoirs sont meilleurs que les vôtres, puis là, on va être meilleur plus rapidement que vous autres, puis nanana. Tu sais, je pense que ça se bâtit comme ça. Il y a déjà un petit quelque chose. S'il fallait que ces deux équipes-là se rencontrent en série l'an prochain, dans deux ans, là, je pense qu'on atteindrait un autre sommet, mais j'ai l'impression que c'est une des bonnes rivalités qui existent déjà là, au moment où on se parle.
Mais je pense que la rivalité va prendre encore de l'ampleur. Comme Nick, tu le disais, dans le futur, techniquement, c'est deux équipes qui vont partir vers le haut. Il y a des équipes comme les Bruins qui commencent déjà à donner le relais à des formations plus jeunes. Un jour, peut-être que les Maple Leafs aussi vont finir par casser, ou le Lightning. Donc, Canadiens et Sénateurs pourraient se revoir souvent. Puis, l'arrivée aussi d'un nouveau propriétaire, Michael Endlauer, qui est beaucoup plus sensible à la réalité francophone, qui va travailler fort pour aller chercher le marché de Gatineau, qui va venir jouer des matchs préparatoires du côté de Québec à l'automne prochain. Donc, Endlauer a déjà été actionnaire aussi chez le Canadien de Montréal, connaît parfaitement ce marché-là. Je pense qu'il va contribuer aussi à sa façon à faire grandir cette rivalité-là entre les Sens et le CH. La Ligue en a besoin. T'sais, la rivalité de l'Alberta, Edmonton, Calgary, on en parle depuis des années. Avant, c'était Montréal-Québec, mais ça n'existe plus depuis quoi, 96, le départ des Nordiques, donc ça fait déjà un bail. Puis tant mieux si les deux équipes peuvent se retrouver aussi sur la glace. Les deux équipes risquent de faire partie, c'est peut-être un grand mot là, rapidement, mais devraient techniquement faire partie des bonnes équipes de l'Association de l'Est dans le futur.
Et le point le plus intéressant pour tout ça, c'est qu'il reste un duel entre les deux équipes cette année. Ça va être le 11 avril, donc c'est le quatrième. Il va rester à ce moment-là quatre matchs au tricolore. C'est un vendredi, puis le lendemain, à Ottawa, et le lendemain, les Canadiens se déplacent à Toronto. Alors ouais, que ça pourrait être un gros week-end de qualification pour les séries éliminatoires pour les deux clubs. Juste là, Guillaume, on pourrait avoir une marge de plus à la rivalité.
Guillaume me fait de gros yeux, mais c'est je ferai ce voyage-là à Ottawa. Pour une rare fois, Guillaume cède un voyage à Ottawa. Il y avait une petite larme.
Sont-ils au courant, au Marriott? Ou?
Oui, on a averti le Marriott. C'est un peu, il y a deux villes. Buffalo, c'est toujours Guillaume Lefrançois pour la presse. Oui. Maintenant, Ottawa, c'était toujours Guillaume Lepage. Mais là, on revient à une réalité là, plus conforme. Je ferai un détour par la capitale nationale.
D'ailleurs, Nick, j'aimerais... Chaumont s'en va à Toronto aussi après.
Toronto le lendemain, j'avais l'impression.
Mais si je retenais pas de JF depuis samedi, je pense que nos chambres d'hôtel seraient déjà réservées à Washington. Après le match de samedi, on marche vers nos voitures. Et là, les Canadiens, même pas en série, mais gagné un gros match, la foule était dedans. Et là, sa préoccupation, c'est l'hôtel pour la première ronde à Washington. On dirait qu'après chaque match, il faut que je tempère. Si le Canadien avait 75-76 matchs de jouer et était dans la position dans laquelle il est en ce moment, je dirais, OK, on peut regarder peut-être commencer à se préparer. Mais là, je trouve qu'il reste quand même beaucoup de temps. On va attendre de voir. Donc, les chambres en stand-by là, du côté de Washington.
Non, mais j'ai un gros nez, mais il faut que ça peut servir de temps en temps. Ça, on appelle ça du flair, Guillaume. Si ça permet de réserver à l'avance, tu peux annuler sans aucun frais 24 heures à l'avance. Tu t'assures d'un bon prix. Tout le monde est heureux. Tu reçois un courriel de félicitations de la part de la Ligue, étant donné qu'on a réservé un bon prix. Et je connais un collègue du côté de Washington, Stephen Wino, pour ne pas le nommer. Wino pouvait réserver comme 8 scénarios différents. J'arrive pas à cette folie-là. Là. Je te parlais d'un seul scénario, puis tu m'as regardé comme si j'étais le pire des mutants de l'histoire. Donc, morale, pour l'instant, nous n'avons rien réservé. On garde la mentalité de Martin Saint-Louis, un match à la fois. Faut pas regarder trop loin.
Washington, tu dors-tu à Arlington ou...
Non. Washington, c'est quand même bien. Beaucoup d'hôtels. Donc, c'est pas une ville où c'est hyper stressant. Mais les Capitals s'entraînent du côté d'Arlington.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'es un petit peu entre les deux. Arlington, Washington, ça se fait en une quinzaine de minutes à l'extérieur des heures de trafic en Uber. Ou tu peux même te déplacer en aussi métro.
En métro.
Il y a une station de métro collée sur le centre d'entraînement. Donc, c'est aussi une ville très agréable au printemps.
Oui, les fleurs. C'est beau. Les fleurs, c'est
les
très
fleurs,
beau.
Les fleurs, les musées. Donc, je prévoyais y aller avec Guillaume Lepage plutôt que d'aller dans une classique microbrasserie. On se disait qu'on ferait quelques musées du côté de Washington.
Des beaux musées, les Smithsonian. Une ouais. belle place. Donc, écoute, on poursuivra les conseils touristiques si jamais il y a affrontement. T'allais dire, Guillaume?
Non, je voulais juste, parce que c'est mon obsession, vous le savez, j'aimerais juste glisser un mot sur les Rangers de New York.
Vas-y, ben, j'allais vers ça justement.
Ah, OK, bon, ben, je peux te laisser y aller. Je voulais, juste m'assurer qu'on passe pas à côté de ça.
Non, exactement. Ben, je voulais parler de la course aux séries avec hier une défaite de 2-1 des Rangers contre les Flames. Des Rangers qui présentement se retrouvent hors des séries à un point du tricolore, mais deux matchs de plus de disputés. La panique, lentement mais sûrement, continue de gagner les Rangers parce que ça a été une saison à l'image de ça. Adam Fox qui est revenu au jeu hier, mais quand même on subit une défaite. Devant le filet, Shesterkin a l'air de travailler tout seul. Est-ce qu'il commence déjà? Oui, il reste encore 11 matchs, 12 matchs, 13 matchs à la saison. Mais est-ce que réellement les Rangers peuvent... On s'y attend tous. Fait combien de temps là, qu'on dit là, ça va tourner, le vent va tourner, le vent va... Mais jusqu'à présent, le vent est pas mal. Ça souffle pas, là. Ça souffle juste pas chez tes Rangers, Guillaume.
Non, ben mes Rangers, c'est plus... c'est pas que je cheer pour eux, mais c'est parce que... J'étais pas mal dans ceux qui étaient comme moi. Ça va finir par fonctionner. Mais si on a besoin d'une statistique qui illustre ce qui se passe chez cette équipe-là en ce moment, hier, dans un match aussi important... On est déjà en retard dans la course aux séries. On a joué plus de matchs que les autres. On décoche 13 tirs au but. 5 en première, 3 en deuxième, 5 en troisième. On s'incline 2-1 contre les Flames de Calgary, qui sont une équipe aussi dans la course aux séries dans l'Ouest.
Je vais ajouter d'autres choses à Guillaume, juste pour vous dire à quel point le 13 tirs, c'est mauvais. Les Rangers ont gagné 58,6% des mises en jeu contre 41% du côté des Flames. Donc, on avait la possession de la rondelle, puis on n'a rien fait avec offensivement.
Fait que tu sais, j'ai pas vu le match, on est au Centre Bell, mais ça démontre une équipe qui joue sans aucun sentiment d'urgence. Tu peux pas être dans une course aux séries puis prendre ça à cœur à 100% puis décocher 13 tirs dans un match. Je sais que les Flames de Calgary ont un système de jeu assez hermétique, mais une équipe comme les Rangers, avec le talent qu'il y a sur papier, est supposée au moins atteindre les 20 tirs dans un match comme ça, si c'est pas plus, parce qu'ils sont dans une position vraiment, vraiment précaire en ce moment. Ça illustre quand même, tu sais, je pense, on parlait des Sens, on parlait du Canadien, ce sont des équipes qui sont sur la pente ascendante, qui ont de bonnes séquences en ce moment. À l'inverse, tu regardes les Rangers, puis c'est le désert.
Ouais,
c'est...
En plus, puis depuis le retour là, de la fameuse pause, le tournoi des quatre nations, le CH et les Sénateurs, on parle de deux équipes qui ont choisi de partir sur des séquences de victoires. Montréal, c'est une fiche de 8-1-2 en 11 matchs. Ottawa, 7-3-1. Puis toutes les autres équipes dans la lutte, ils ont de la misère à se retrouver à 500. Les Islanders, 6-5-1. Les Rangers, 6-6-2. C'est encore pire pour les Blue Jackets. Les Blue Jackets, 5-6. Ouais, non, les Red Wings, 4-8-1. Donc, tu dois maintenir un dossier d'au moins 600, même 650 jusqu'à la fin de l'année pour t'assurer une place en série. Puis les Rangers sont incapables d'y arriver. C'est quand même énigmatique. Là. Il y a du talent offensif. Là. Panarin, Zibanejad, ils ont été chercher JT Miller. Mais 13 tirs. J'ai donné un coup de coude hier à Guillaume parce que Guillaume avait le bonheur d'écrire le flash qu'on appelle, donc le texte qu'on doit remettre au buzzer. Puis il me disait, peux-tu juste surveiller le résultat des Rangers, s'il te plaît? Si ça bouge, fais-moi signe. Puis ça a été mon réflexe de dire à Guillaume, Ils ont 5 tirs en première, 3 en deuxième, je crois. Je pense pas que ça va trop bouger. C'est une équipe qui... On dirait qu'il n'y a pas d'armes avec les Rangers de New York cette saison. Puis ça risque de provoquer l'élimination de cette équipe-là.
En plus, les Flames avaient envoyé Dan Vladar devant le filet. C'était même pas Dustin Wolf. Donc, la porte était ouverte pour les Rangers.
C'était deux matchs en deux soirs aussi pour les Flames de Calgary. Plus. Ils jouaient du côté de Long Island. Un voyagement très court là, entre Long Island puis New York. Mais quand même, c'était techniquement une équipe qui devait être fatigué.
Si les Flames, on en parlera, mais si les Flames sont en séries éliminatoires, il va falloir regarder aussi Ryan Huska pour, du moins dans le top 5 là, des entraîneurs pour le trophée de Jack Adams. Les Islanders qui s'amènent au Centre Bell, l'inverse.
Du côté de
les Canadiens s'en vont à Long Island jeudi, donc ça va être un match à surveiller. Les Islanders qui n'ont pas lancé la serviette, 6 victoires en nos 10 derniers matchs, 2 consécutives. On a échangé Brock Nelson, mais malgré ça, je ne sais pas si ça a motivé un peu les troupes de Patrick Roy, mais bon, on est encore dans la course. On n'est pas très loin. T'as 3 points des Canadiens, même nombre de matchs joués. Donc, encore une fois, le match contre les Sénateurs était très important pour le tricolore, celui de jeudi va l'être tout autant contre les Islanders. Puis ensuite, chez les Canadiens, on s'en va affronter samedi.
C'est
l'Avalanche du Colorado qui débarque à Montréal. Il n'y aura pas de match facile d'ici la fin de la saison. Ils vont tous compter pour les tricolores. Les gars, tour d'actualité un peu dans la Ligue nationale de hockey. Vous avez, toi et deux, vous avez parlé avec 2 joueurs qui ont été échangés à la date limite des transactions. On va commencer avec Vincent Desharnais du côté des Sharks de San Jose. Desharnais, là, vit dans ses valises depuis un peu moins d'un an. Là, soyons francs, là, a terminé la dernière saison avec les Oilers d'Edmonton, s'entend avec les Canucks de Vancouver comme joueur autonome sans compensation, échangé aux Penguins de Pittsburgh, espère avoir un rôle après que ça n'ait pas marché avec les Canucks. Et là, il est immédiatement rééchangé aux Sharks de San Jose. La pilule a dû passer un peu mal là, pour Desharnais.
Non, Desharnais s'en cachait pas. C'était pour lui un coup dur de voir sur son cellulaire un message texte de Kyle Dubas qui lui dit « Peux-tu me rappeler, s'il vous plaît? » Desharnais est assez intelligent pour comprendre qu'à 2 jours de la date limite, quand le DG te texte, ce n'est pas nécessairement pour te parler de ton dernier match. Il y a plus de chances de t'annoncer une transaction. Sur le coup, il a vécu ça vraiment là, d'une façon difficile. Repartir encore une fois, il disait que c'était plus la frustration par rapport à la business, par rapport à la réalité du hockey, que tu es parfois un simple numéro puis que tu n'as pas le choix de dire oui, que bon, tu dois faire ses valises. Mais fait rire, Vincent Desharnais, c'est un gars qui a quand même un bon sens de l'humour. Puis à la fin de l'entrevue, il me dit « Moi, j'ai juste un souhait pour cet été. Je passe 4 mois à Montréal. Je bouge plus de mon appartement.
Je sors plus.
Je reste, je sors plus. » Donc, mais tu sais, il y avait quand même la sagesse de dire qu'une fois que la poussière retombe, que les émotions sont placées de côté, Kyle Dubas lui a dit qu'il l'échangeait parce qu'il avait la crainte de le voir tomber dans une chaise de 7e défenseur puis qu'il voulait lui offrir une occasion de jouer du côté de San Jose. Desharnais mentionnait par contre que quand Dubas lui parlait au téléphone, qu'il n'était pas gros dans ses culottes, pour reprendre une expression bien québécoise, qu'il se sentait mal. Mais Vincent a rapidement trouvé peut-être un endroit qui va bien lui convenir du côté de San Jose. Il joue plus que 18 minutes à ses 4 premiers matchs. Même s'il y a un petit peu moins de 200 matchs à la Ligue nationale, il est déjà un des plus vieux du côté des Sharks de San Jose. Puis veut jouer le rôle de grand frère pour une équipe qui désire construire autour de McLean Celebrini, Will Smith et compagnie. Donc, Desharnais est le premier à le mentionner que parfois, il n'y a rien qui arrive pour rien pour lui, mais c'est peut-être un mal pour un bien d'obtenir un nouveau départ du côté des Sharks de San Jose.
Ça va être aussi un rôle. Hein? Je pense que c'est important pour lui de se sentir important,
de se sentir désiré.
C'est ça. C'est une motivation supplémentaire.
Il donnait comme exemple un match rapidement, un match contre les Blackhawks de Chicago où les Sharks menaient en fin de 3e période. Mais Desharnais avait passé 3 des 5 dernières minutes sur la glace. Puis ça a été exactement le message de Doug Ouda à son arrivée. Doug Ouda, c'est un entraîneur adjoint, entraîneur des défenseurs. À son arrivée avec les Sharks, on voulait lui confier un rôle très défensif, tuer des punitions, protéger les avances en fin de match. Puis aussi, ça vient avec son rôle, protéger les jeunes joueurs. Puis Vincent disait que pour l'instant, là, tout nouveau, tout beau du côté des Sharks de San Jose.
Doug Ouda, qui est aussi un amateur de fromage, hein, faut le mentionner.
Oui, on va passer à Guillaume, je crois qu'il voulait nous parler de Jacob Pelletier.
Ouais, un autre qui, écoute, si Desharnais se sent un peu mieux, se sent dans un rôle, sent qu'il a sa place, Jacob Pelletier, depuis qu'il est arrivé avec les Flyers de Philadelphie, on peut pas dire que ça coule facilement pour lui, là.
Non, c'est un temps de jeu moyen de 8 minutes 46 en 12 matchs avec les Flyers de Philadelphie. Donc, Jacob Pelletier qui disait, tu sais, c'est difficile parce que il joue sur un quatrième trio en compagnie de Nicolas Deslauriers, entre autres. Je me souviens plus de son joueur de centre. Je pense que ça en dit long, justement, le fait que Rodrigo Abold. Donc, c'est difficile pour Jacob Pelletier de se mettre en valeur dans un contexte comme ça. On a l'impression, peut-être, d'un œil extérieur que John Tortorella veut peut-être lui montrer qui est le patron à Philadelphie. C'est souvent sa manière de fonctionner. Tu sais, Jacob Pelletier, qui est un choix de première ronde, qui n'a pas encore démontré ce qu'il était capable de faire à ce niveau-là, mais quand même, tu peux penser que quand tu donnes deux joueurs établis dans une transaction, puis que le retour, c'est Jacob Pelletier, ben tu vas le placer dans une bonne position pour justement montrer aux partisans, donner raison à ton DG d'avoir procédé à cette transaction-là. Pour l'instant, c'est pas ça qui se passe du côté de Jacob Pelletier. Écoute, il y a eu des matchs. La veille de notre appel a joué seulement 5 minutes 56, donc il était en pleine forme quand on s'est parlé. Il avait beaucoup d'énergie. c'est difficile, puis il dit, tu sais, avec les Flames, dans les derniers matchs, on se souvient qu'il a commencé la saison dans la Ligue américaine quand même, mais avait été rappelé au début du mois de décembre. Puis de fil en aiguille, il disait, tu sais, j'avais l'impression que j'avais comme gagné la confiance de l'entraîneur. Puis il y a ses derniers matchs, il était utilisé sur un premier trio avec Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri. Donc il dit, j'avais l'impression que j'avais fait mes preuves avec les Flames.
Ça débloquait.
Là, changement d'adresse. On recommence à zéro, faut qu'il refasse ses preuves avec un John Tortorella qui, pour le moment, n'a pas l'air de lui donner les plus grandes chances au monde de se faire valoir. Donc, c'est un changement difficile, surtout parce que, tu sais, Jacob Pelletier a souvent été nommé dans les rumeurs de transactions dans les dernières années. Chaque fois qu'il y avait des rumeurs autour des Flames, son nom sortait. Mais il dit, pour la première fois cette année, j'avais l'impression que j'étais là pour rester. Il avait signé un contrat d'un an, mais il dit, j'avais l'impression que j'avais trouvé ma place justement dans cette équipe-là, que je commençais à produire offensivement et tout. T'sais, c'était quand même, il y a eu une séquence de 11 points en 20 matchs, ce qui est quand même relativement respectable là, dans son cas. Puis là, ben, on l'échange, ça l'a pris par surprise, on l'échange en plein milieu d'un match en plus de ça. Après une période, on lui dit « tu vas aller dans le bureau de l'entraîneur », on l'informe qu'il est échangé aux Flyers. Donc c'est un choc dur à accepter, surtout que là, ben, il arrive du côté de Philadelphie puis on le place dans un rôle de quatrième trio. C'est pas nécessairement ce qu'il aurait souhaité, mais disons que bon, on verra ce que les derniers matchs de la saison vont lui réserver. Peut-être que John Tortorella va décider de lui donner plus d'occasions sur un trio offensif d'ici la fin de la saison, mais c'est à voir. Jusqu'à maintenant, c'est assez compliqué.
Il va falloir qu'il fasse les bonnes petites choses, là, comme dit tout le temps Tortorella.
Ouais, mais tu sais, quand tu joues 5 minutes 56 dans un match, c'est difficile de faire beaucoup de bonnes petites choses.
Ouais, exactement.
Et c'est de l'extérieur, c'est quand même bizarre, parce que Pelletier, le type de joueur qui pourrait cadrer avec la sauce John Tortorella. C'est un gars d'intensité. C'est un gars qui a l'ADN d'un travaillant. Mais comme Guillaume disait, si tu embarques deux fois par période, bien c'est difficile de gagner le cœur d'un nouvel entraîneur.
Oui, exactement. Messieurs, avant dernier segment, dernière portion du balado, je veux qu'on parle un peu de la course au trophée. Alors que la saison, comme je disais plus tôt, on est dans le dernier droit. On va faire ça quand même rapidement, parce que le temps avance. Vous devez vous rendre au rond, comme on dit, pour aller à l'entraînement des Canadiens. Trophée Calder, est-ce qu'on s'excite avec Lane Hutson? À quel point est-ce que la saison de Lane Hutson est supérieure à celle de McLean Celebrini? Hutson, 53 points en 67 matchs. Celebrini, 50 points en 56 matchs. Je pense que c'est entre les deux, là, vraiment, pour le
Ben, il y a Dustin Wolf aussi qui peut s'inviter dans la danse, à mes yeux. Je pense que Matvey Michkov a été largué de la course. Je crois pas qu'on s'excite ou qu'il y a trop de partisanerie avec Lane Hudson. Il connaît une saison phénoménale. Hudson a aussi l'avantage de jouer pour une équipe qui va se battre pour une place en série, tandis que Celebrini, c'est pas de sa faute. Il tombe dans une équipe pour qui c'était impossible cette saison, mais Hudson va attirer encore plus l'attention. Écoute, une saison là, de 53 points pour Lane Hudson, c'est il est parmi le top 10 de défenseurs de la Ligue nationale à 20 ans. Il a coché toutes les cases possibles cette saison. Lane Hudson les a réussies. Pour moi, si on devait voter demain matin, je crois qu'Hudson aurait l'avantage sur Macklin Celebrini.
Mais ma vie, Guillaume?
Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai un billet favorable pour un gars qui évolue à la ligne bleue comparativement à un Celebrini qui est à l'attaque. Je pense que c'est une position qui est plus compliquée parce que tu as beaucoup plus de responsabilités du côté défensif. Puis c'est un peu les doutes qu'on avait avant l'arrivée de Lane Hudson dans la Ligue nationale. On se demandait s'il allait être capable de défendre contre des hommes beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants que lui. Puis honnêtement, hier, je le regardais du point de vue défensif. Puis je me souviens d'une séquence où il est allé dans le coin avec Greg Batherson, qui n'est pas un petit bonhomme. Il l'a laissé passer très intelligemment. Puis finalement, il est allé avec un jeu avec son bâton et ressorti avec la rondelle. Tu sais, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment, vraiment intelligent défensivement, puis avec ce qu'il est capable de faire offensivement, pour moi, il n'y a aucun doute que Lane Hudson devrait être le gagnant de ce trophée-là.
Il faut juste replacer en contexte, là, les 53 points de Lane Hudson, oui, domine les recrues, là, mais 53 points, c'est le sixième rang chez les défenseurs, à égalité avec Victor Hedman. Puis devant lui, il y a l'extraterrestre Cale Makar qui est à 78, Zach Werenski à 69, Quinn Hughes à 65, Evan Bouchard 54. Puis après ça, Hudson devance Rasmus Dahlin, Josh Morrissey, Adam Fox, Eric Karlsson, des gars qui ont toujours eu de bonnes statistiques offensives. Puis Hudson fait ça à 20 ans. Celebrini, par contre, on parle d'une recrue de 18 ans. Il y a quand même deux années plus jeune que Lane Hudson. Ça aussi, ça risque d'influencer certaines personnes qui doivent voter. Mais je crois tout de même que, comme Guillaume le disait, c'est autant le talent offensif d'Hudson, sa vision, son jeu défensif aussi, qui se débrouille bien. Puis je pense que l'illustration, là, hier, son but contre les Sénateurs d'Ottawa, c'est ça que Lane Hudson donne aux Canadiens depuis le début de l'année. Quand cette équipe-là a besoin d'une étincelle, il va réussir à en sortir une. Puis il a fait une passe aussi en supériorité numérique hier du côté là, de Cole Caulfield. Il est beau à voir. Honnêtement, là, ça fait plusieurs années que j'ai l'occasion de couvrir le Canadien. Rarement j'ai vu un joueur qui change la dynamique d'une équipe aussi vite que Lane Hudson.
T'as ouvert la porte. Trophée Norris, l'extraterrestre Makar semble partir en avance parce qu'il a 78 points en 68 matchs. Mais la saison de Zach Werenski est tellement spectaculaire. 69 points en 66 rencontres. Enfin, il est en santé. Il est au sein d'une équipe que tout le monde voyait dans le bas-fond du classement, puis il est capable. Il est vraiment, tu sais, il est tout seul, là, Werenski. Je veux pas dire tout seul, mais à la défense, un peu, chez les Blue Jackets. Mais est-ce que c'est assez pour devancer Makar?
Ben moi, trois quarts de saison, on fait l'exercice là, pour LNH.com. Ouais. J'avais donné mon vote à Zach Werenski. Je crois que Cale Makar est en train de gruger peut-être la petite distance qu'il y avait dans ma tête entre les deux. Mais Werenski, si jamais les Blue Jackets peuvent obtenir une qualification pour les séries, je crois qu'il va arriver avec un curriculum vitae là, vraiment intéressant pour gagner le Norris cette année. C'est le type de joueur qui est aussi le plus utile à son équipe. Fait tout de bien sur la glace, passe pratiquement 27 minutes par rencontre. Il ne faut pas oublier aussi que le Norris, c'est pas uniquement celui qui obtient le plus de points. Mm-hmm. Là. Parfois, il y a des votes qui peuvent surprendre parce qu'on va uniquement regarder les statistiques offensives. Mais Norris joue en infériorité numérique et de toutes les missions, pas Norris, mais Werenski et de toutes les missions du côté des Blue Jackets de Columbus.
Moi, ouais, j'avais la même chose au trois quarts de saison. J'avais Werenski au premier rang. Juste ajouter 27 minutes par match, c'est le joueur le plus utilisé en moyenne dans la Ligue nationale. La Ligue. C'est quand même impressionnant, mais j'ai l'impression que peut-être sa candidature va être influencée par le rendement de l'équipe aussi. Là, dans les quatre derniers matchs, sur regardes Werenski, c'est aucun point. Différentiel de moins 6. Un point, une passe dans les quatre derniers matchs, moins 6 de différentiel. Fait que, comme tu disais, j'ai l'impression que Makar avec le parcours qu'il a déjà peut-être un penchant favorable envers lui. Puis avec ce qu'il est en train de démontrer, je me souviens, je pense que c'est une séquence la semaine dernière, revient dans son territoire, coupe un jeu défensivement, remonte la rondelle, puis l'Avalanche marque. Tu sais, c'est... Honnêtement, autant Werenski, je comprends qu'il est très utile, mais quand tu regardes le défenseur, le Cale Makar est difficile à déloger. Ouais, pour moi, c'est ça. Ça va être... T'sais, si les Blue Jackets se taillent une place en série, puis que Werenski passe sur une séquence de, je sais pas moi, 15 points à ses 15 derniers matchs, là, on aura peut-être une autre discussion, mais j'ai l'impression que Makar va être très dur à déloger.
Je pense que dans les 5 trophées qu'on va parler, là, c'est le plus serré au niveau de la course là, entre Werenski et la course pour le sommet. Jack Adams, entraîneur de l'année. Bon, justement, on sait tout ce qui s'est passé avec les Blue Jackets, avec Johnny Gaudreau, avec son décès. Cette équipe-là qui devait être dans les bas-fonds de la Ligue, elle l'était l'an passé. Est-ce que ça donne à Dean Evason assez de munitions, assez de points pour venir se battre avec les deux entraîneurs qui dirigent les deux meilleures équipes de la Ligue, c'est-à-dire Spencer Carberry et Scott Arniel à Washington? Washington et Winnipeg.
Que du côté de Dean Evason, il y aura besoin d'une présence en série des Blue Jackets pour graver son nom sur le Jack Adams. Mais même avec une entrée des Blue Jackets, pour moi, Spencer Carberry est le grand favori. Qui aurait parié sur une saison aussi folle des Capitals de Washington? Très peu de personnes. Les Caps frôlent déjà 100 points. C'est 98 points après 68 matchs pour les Capitals. Pour moi, ça se joue entre Carberry, où tu l'as dit, Scott Arniel du côté des Jets de Winnipeg. Même chose, les Jets représentent la belle histoire dans l'Ouest.
Moi, ce qui m'a fait donner mon vote de première place, justement là, dans l'exercice qu'on parle, à Carberry, c'est le fait qu'il y avait, il y avait tellement de nouveaux ajouts du côté de Washington, des joueurs qui avaient à se prouver, des Pierre-Luc Dubois qui avaient à se prouver. Il y en a plusieurs là, que, dans cette équipe-là qu'on était chercher qui étaient des cas de réhabilitation, si on veut. Puis Carberry a réussi à mettre ça ensemble, à trouver rapidement. Ça a collé dès le départ, puis ça n'a jamais lâché jusqu'à présent. On a repris le premier rang de la Ligue hier. Donc, j'ai pas le choix. Tandis que Scott Arniel, son défi, c'était de prendre une Ferrari ou une Porsche, peu importe, puis juste s'assurer qu'elle continue à rouler. Les Jets, c'était déjà une très bonne équipe l'année dernière. C'est le même noyau. La différence, c'était l'entraîneur parce que Rick Bowness a pris sa retraite. Arniel arrivait dans ce rôle-là, mais il était déjà entraîneur associé. Tout était déjà en place. Tandis que Carberry, il y avait beaucoup de construction à faire. Puis, ma foi du bon Dieu, mission accomplie.
Ouais, même choix pour moi. Carberry, tu sais, les Capitals, c'est une équipe qui ont fait les séries l'an dernier. Ont été sortis très, très rapidement. 4 matchs contre les Rangers de New York. À ce moment-là, on se disait c'est peut-être la dernière fois qu'on voit les Caps en série pour un bon moment. Puis là, on fait l'acquisition de plusieurs nouveaux noms, puis réussit à mettre tout ça en place. T'sais, on l'a vu avec les Prédateurs de Nashville. C'est pas parce que tu fais des acquisitions sur le marché des joueurs autonomes puis que tu changes un peu la face de l'équipe que ça va nécessairement, la sauce va prendre. Carberry a fait ça à merveille, donc pour moi c'est aussi mon numéro 1, le numéro 1 sur ma liste.
Grand favori. Trophée Vézina, Connor Hellebuck, ça va pour tout le monde?
Ouais. Connor Hellebuck, je pense qu'on peut passer au trophée suivant.
Allons-y au trophée Hart, justement. La question, c'est est-ce que avec ce que Connor Hellebuck fait du côté de Winnipeg, c'est assez pour remporter le trophée Hart? Tu serais le premier gardien à le remporter depuis je vais aller vérifier tout, là, j'ai un petit blanc, là, mais depuis longtemps, là, tout de moins. Là. Est-ce que c'est suffisant pour battre un Nathan MacKinnon, un Leon Draisaitl, qui surtout, eux, bon, jouent tous les matchs de leur équipe, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour Hellebuyck, même si c'est le gardien le plus occupé de la Ligue, je pense à Andrei Vasilevskiy.
Ben moi, aux trois quarts de la saison, j'avais mon vote pour Connor Hellebuyck, puis je garderais le même choix. Connor Hellebuyck, sans dire qu'il n'a pas transformé les Jets, mais de voir les Jets connaître une aussi belle saison, c'est en grande partie en raison du succès du gardien. Puis autant Nathan MacKinnon connaît une saison incroyable, mais MacKinnon joue avec Kyle McCarr. Il y avait Mikko Rantanen en début de saison. Donc, je te trouve que le punch de joueur étoile, le punch offensif du côté de l'Avalanche est plus grand. Pour cette raison-là, je me range du côté de Connor Hellebuyck, qui est le dernier gagnant, mais c'est Carey Price ben, c'est en ça, 2015. Donc, ça ferait exactement 10 ans.
10 ans plus tard. Et ensuite, c'est José Théodore en 2002.
Ouais.
Donc, depuis 1999, il y a seulement deux gardiens qui ont gagné ce trophée-là. Et je pense qu'il va en avoir de moins en moins parce que ça prend un gardien qui, dans la réalité de maintenant où les gardiens
jouent un peu moins de matchs, match,
il va en avoir de moins en moins, mais la saison de Hellebuyck est
tellement... Mais si tu regardes la définition pure du joueur c'est le plus utile à son équipe, pour moi, c'est difficile de déloger Connor Hellebuyck. Je ne sais pas ce que Guillaume en pense. Là.
Moi, j'avais MacKinnon. Je comprends qu'il était appuyé par Rantanen pendant une bonne partie de la saison, mais en ce moment, c'est 25 points de plus que le deuxième meilleur pointeur chez l'Avalanche, qui est Kyle McCarr. Pour moi, c'est le moteur de l'Avalanche. C'est celui qui, tu sais, on parlait de vecteur de culture plutôt.
Ah, c'est pas un mauvais choix, là.
Non,
l'Avalanche, je pense que c'est lui qui montre l'exemple. Martin Nekash est arrivé là, s'est mis à fonctionner automatiquement aux côtés de MacKinnon. T'sais, pour moi, c'est la définition même d'un leader. Puis si MacKinnon n'est pas dans cette équipe-là, oui, tu as d'autres gros noms, mais j'ai l'impression qu'il ajoute une petite touche peut-être intangible qui change un peu le visage de cette équipe.
Pour aider sa candidature, il y a eu énormément de joueurs blessés du côté de l'Avalanche pour... Mm-hmm. La cinquantaine de premiers matchs, là, au moins. On parle de deux très bons choix. Ouais. Je serais surpris qu'il y ait un troisième candidat fort que MacKinnon et Hellebuyck.
Je vais reprendre tes paroles, Guillaume, mais si les Blue Jackets devaient participer aux séries éliminatoires et que Werenski passe une séquence de 15 points en 15 matchs, Werenski répond à merveille. C'est peut-être celui qui répond le mieux à la définition du trophée Hart, c'est-à-dire le joueur le plus utile à son équipe. Il n'y a pas d'autre joueur du calibre de Werenski du côté de Columbus. Et malgré ça, cette équipe-là, avec toutes les embûches auxquelles elle a fait face, participera aux séries éliminatoires. Je suis pas prêt à dire que Werenski, mais bon, ça prendrait... Je te dirais que il y a deux semaines, Werenski, ça regardait mieux qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait eu deux votes de première place, une possibilité de 11 sur le site web.
Mais rapidement, Nick, historiquement, là, c'est difficile de convaincre ceux qui vont voter d'y aller pour un défenseur.
Oui, depuis 2000.
Chris Pronger, là, trop souvent, l'erreur, c'est de regarder le classement des pointeurs. C'est pas le Art Rust, c'est le Art. Il y a une différence. Donc, on verra. Mais oui, je crois que Zach pourrait être le troisième là, dans la lutte.
Oui, effectivement. Mais bon, on va avoir nos réponses à la fin de la saison. Guillaume, JF, merci d'avoir été là aujourd'hui sur le balado. Je vous laisse aller courir à Brossard. Vous dirigez du côté de Brossard, j'imagine.
Uniquement moi. Je pense que Guillaume a l'intention de rouler jusqu'à Ottawa. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un détour à Ottawa.
Je m'ennuie, je m'en vais passer la fin de semaine. Là.
Non. C'est bon, donc on va pouvoir aller tout ça. Ton guide touristique, Guillaume, de la région de l'Outaouais. Et JF, ton texte sur les Canadiens sur le site de lnh.com aujourd'hui. Chers auditeurs, suivez-nous. Réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Instagram, sur Threads et LNH-FR sur Blue Sky. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.